Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est l'heure du Énervé saison 3. Ça se passe en direct au studio 621. C'est en plein cœur de la maison dans la radio. Bienvenue à toutes et à tous ce soir, des histoires de trafic d'organes, de flux de serpents, de perroquets, de houmous avec nos invités. D'abord un couple, un faux couple. Le réalisateur Jean-Jacques Benex et l'écrivain Isabelle Duquesnoy. Qu'est-ce qui les relie? Un livre signé par la seconde, L'Embaumeur ou L'Odieuse Confession de Victor Renard. Une histoire énorme et drôlatique d'un embaumeur criminel au XVIIIe siècle. Un roman historique à suspense formidable qui a fasciné Jean-Jacques Benex qui a voulu nous en parler. Bref, un exercice d'admiration ce soir. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
À leur côté, Hillel Kogan qui est chorégraphe, il signe We Love Arabs, un spectacle qui tourne partout dans le monde depuis 4 ans, une pièce chorégraphique qui aborde par le mouvement et par le houmous les relations israélo-palestiniennes. On en sort avec l'équipe du NRV. Vali, vous avez bien ri?
Ah, j'ai rigolé, j'ai adoré.
Et Virginie Rosic aussi.
Virginie Rosic, elle m'aime beaucoup, et Juliette Medivielle aussi.
On avait 4 places, mais oui. C'était blindé. Hillel Kogan, bonsoir.
Bonsoir.
22h30, ce sera l'instant V, Vali pour la musique en live, et ce soir, une femme du monde.
Absolument, elle s'appelle Sandra Nkake, elle est au taquet pour chanter 2 morceaux de son 3e album qui sort demain.
Dans ma tête, il se passe tellement de choses, de joie, de ça frétille, ça bouillonne. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de chanter là.
Bah, elle va le faire dans l'instant V, dans une demi-heure à peu près.
Le jeudi, vous le savez, Vali clôt la première heure avec sa mixtape. Le meilleur de la musique à venir, ça sera une piste par exemple, une seule.
Une piste, je vais dire Milano.
Parfait, je ne sais même pas ce que c'est. 23h le journal, on change de plateau. 23h15, on revient, le énervé la suite. Ce soir, c'est la Corée du Nord qui est au programme. Christophe Bourseiller est avec moi. Cette Corée qui vient d'annoncer aujourd'hui son projet de couler le Japon et de réduire les États-Unis en cendres.
Oui, on va parler d'un humoriste, mais curieusement, il ne fait pas rire, c'est Kim Jong-un. Donc le thème, la Corée du Nord fera-t-elle sauter la planète? Faut bien poser la question un jour. C'est nous qui la posons, Laurent, vous et moi. Et puis évidemment, quelques invités. Alors il y aura Juliette Morillo, qui est journaliste. Il y aura Pierre Rigoulot, qui est historien. Pierre Aski, qui est journaliste qu'on connaît bien. Et puis un plasticien influencé par le métal, très intéressant. Il revient de Corée du Nord, Val Noir.
Le NRV, 22h minuit, c'est reparti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous Isabelle Duquesnoy et Jean-Jacques Benex, parce que c'est vous, Jean-Jacques Benex, qui avez appelé Christophe Bourseiller, allez je balance tout, il n'y a pas de off, pour lui dire je veux venir, il faut absolument que je vienne, j'ai lu un livre formidable. Oui, ça se passe comme ça maintenant, les gens s'invitent. L'Embaumeur d'Isabelle Duquesnoy, il faut en parler. Alors ici au NRV, on ne refuse rien à Jean-Jacques Benex, qu'on a reçu plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre? On va rentrer dans le livre, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre?
Bah, y a des livres comme ça qui vous tombent dessus.
Alors en plus, celui-là, il vous tombe dessus, il vous fait mal, plus de 500 pages.
Oui, et j'y ai passé une partie de mon mois d'août, et très surpris de rencontrer un personnage aussi étrange, tordu. Certains pensent au personnage de Grenouille, mais c'est pas du tout, du tout Grenouille.
Grenouille, on rappelle ce que c'est.
Grenouille, c'est le héros du bouquin de Soskin, Le Parfum.
Exactement.
Grenouille, il aime personne. C'est un psychopathe génial, hein, qui veut atteindre un but.
Victor Renard, c'est
Victor
pas la même
Renard,
chose.
C'est tout à fait autre chose.
C'est un assassin.
C'est un assassin.
Un criminel.
Pas un assassin.
Non, un criminel.
Un criminel extrêmement étrange.
Ouais.
On découvrira son meurtre et c'est franchement pas du tout ce qu'on attend.
Voilà, et d'ailleurs on le découvrira si on le lit, parce que je n'en dirai pas un mot. Isabelle Duquesnoy, ça fait 10 ans que vous travaillez à ce roman qui vient de sortir aux éditions La Martinière, L'Embaumeur d'un coup, L'Odieuse Confession de Victor Renard. 10 ans pour raconter l'histoire édifiante et horrifique et drôlatique de cet embaumeur entraîné dans des histoires horribles de trafic d'organes. Ça se passe à Paris au XVIIIe siècle, après la Révolution, et il y a tout dans ce livre. Suspense, documentation historique, récit initial, comme ceux d'ailleurs du XVIIIe siècle. La langue est plus ou moins pastichée par quelquefois. L'idée au départ, il y a 10 ans, c'était de raconter quoi? Des horreurs?
Des horreurs, oui. Je suis naturellement attirée par les choses un petit peu glauques, un tantinet morbide aussi. Et j'aime assez rire de ce qui généralement n'est pas risible. Mais tout a commencé d'une façon... à la fois inattendu et prévu. J'ai dû faire appel 4 fois dans la même année à un thanatopracteur. Et l'un d'entre eux a été une femme très belle Et son arrivée m'a bouleversée parce que je me suis rendu compte que mon défunt allait être pris en charge par une femme qui était très belle et qui, en me parlant, lui caressait les cheveux et le front. Et donc j'ai été très rassurée.
Ça fait rire Christophe Bourseiller.
Oui, bah, tant mieux.
Mais moi aussi, tant mieux. Je savais pas du tout que ça avait commencé comme ça. Continuez.
Ouais, ouais. Ouais. Si, ça a commencé comme ça. Ouais.
Et donc?
Et donc j'ai été rassurée de savoir que mon défunt, qui était ma maman, allait être prise en charge par cette femme très belle et qu'elle allait savoir en prendre soin, la rendre coquette. Et tout a démarré là. J'ai véritablement été attirée, pas par le métier, j'ai pas du tout eu envie de suivre une formation pour l'exercer, mais j'ai eu envie de savoir quels étaient les gestes que cette femme allait effectuer. Et donc, je me suis ensuite plongée dans l'univers de la thanatopraxie. J'ai été très déçue, puisqu'il s'agit essentiellement de techniques, de fluides et d'instruments très modernes. Et donc, ensuite, j'ai reculé. Ouais. Étant naturellement plongée dans le 18e, je m'endors 18e, je me réveille 18e. Si je pouvais, je m'habillerais 18e, mais c'est pas très pratique, mais je le ferais volontiers. Et donc, voilà, j'ai recherché les anciennes recettes de momification et de conservation des corps depuis l'Antiquité jusqu'au 18e.
Et qu'est-ce que vous avez découvert ? On va revenir sur le roman, mais qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a le plus surpris ?
J'ai découvert que depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les recettes n'avaient quasiment pas changé. Et qu'ensuite, vers le 17e, 18e, avec les colonies et l'arrivée des épices et des comptoirs dans les contrées exotiques, les méthodes de thanatopraxie et de conservation des corps avaient changé. Alors ça peut sembler peu passionnant, mais moi ça m'a vraiment captivé. Pour moi, ça a été jubilatoire.
Et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place au niveau du trafic des cadavres, les viols de sépultures, etc., etc. On y reviendra dans le roman. Oui. On va entrer tout à l'heure encore plus dans ce texte où on apprend plein de choses, donc sur les trafics d'organes, les rites d'embaumement, sur les pilleurs de cadavres. Mais vous, Jean-Jacques Benex, est-ce qu'il y a des images de cinéma qui vous sont venues, j'imagine, immédiatement?
Oui, parce que c'est extrêmement visuel. On va de surprise en surprise. Une des premières surprises, c'est la mort du père.
Ah, j'adore. Qui c'est un joueur de flûte en forme de serpent.
Oui, c'est ça. Il joue du serpent.
Ouais. Déjà, ça commence.
Rien n'est banal dans cette histoire. Mais il joue du serpent en marchant en arrière dans des sillons. Or, au XVIIIe siècle, c'était des socs de charrue. Hein? Donc, les sillons, c'était pas un fleuve tranquille. Et on peut imaginer le type qui joue en chahutant parce que les sillons, ils sont très très profonds, très épais dans cette glaise. Et là, il y a un accident absolument somptueux, cinématographiquement, c'est une perle. Et à partir de là commence l'errance de Victor, mais
c'est la première presque qu'on pourrait dire autopsie, avant, puisque on peut le dire, parce que ça arrive très rapidement, ouais. Et puis ça n'en révèle pas le secret, mais ça dit quand même quelque chose de son fils. Le père va être complètement éventré
jusqu'au menton,
je fais le signe jusqu'au menton, oui. Par le soc d'une charrue. On va revenir sur ce roman dans quelques instants. Vous écoutez l'ENRV, ben c'est pas difficile, même si c'est le titre pourtant de Junior, un extrait de leur premier album, Oh là là, sur France Inter.
Thank you.
Retour sur l'embaumeur, c'est votre roman, Isabelle Ducanois. À vos côtés, votre fan Jean-Jacques Benex. Alors, je resitue un peu l'action. 18e siècle, roman historique. On y suit les aventures de Victor Renard, qui va faire fortune en étant embaumeur. Et on va comprendre pourquoi, puisque c'est aussi un roman à suspense. C'est Victor qui raconte son histoire, son enfance, son parcours, lors de son procès, parce qu'il est jugé pour un crime que je laisserai découvrir aux futurs lecteurs qui nous écoutent. Une vie terrible et drôle, parce que le livre est comique dans le macabre. Et j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. C'est les mumises, le jus de momie. Ça consistait en quoi? Et ça servait à quoi, Isabelle Ducanois?
Alors, il faut peut-être repartir depuis l'origine. En 1793 et 1794, des révolutionnaires de la dernière heure, enfin une bande d'énervés, pénètrent la crypte de la basilique Saint-Denis. Et s'en prend à toutes les sépultures des rois et reines de France, casse les gisants, décèle les dalles et s'amuse avec les corps. Certains sont surpris aussi de retrouver Louis XV en piteux état, puisque c'est un des rares rois qu'on n'a pas pu momifier puisqu'il avait une infection très contagieuse, n'est-ce pas, petite vérole, il me semble. Et tous les autres étaient parfaitement momifiés, donc cette bande d'énervés s'amuse avec les corps. Et ensuite, certains d'entre eux se dirigent dans un petit coin de la crypte et s'emparent des urnes qui contiennent les cœurs des rois de France, puisque depuis toujours, les cœurs ne sont pas enterrés, les rois, pardon, et les reines ne sont pas enterrés avec leurs organes mous. On leur retirait le cœur et tous les organes mous.
Je regarde Hillel Kogan, chorégraphe, qui regarde ça, parce qu'il en apprend, il en apprend des choses sur le corps qu'il ne savait pas.
C'est intéressant. Ouais, donc, pour la prochaine pièce.
Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Continuez, oui.
Et donc, ils s'en prennent à ces urnes qui contiennent les cœurs momifiés. Ce sont donc les cœurs des rois et reines de France qui ont trempé dans une solution à base de plantes aromatiques, de sel et d'esprit de vin pendant 70 jours à peu près. Et donc ces cœurs momifiés étaient gardés à part. Donc ils ont cassé les urnes et les cœurs ont été renversés dans la poussière. Plus personne n'y a fait attention, excepté une personne qui les a ramassés et qui s'est rendu compte au bout d'un certain temps, dont on ignore la durée, un certain temps, que ces cœurs momifiés étaient très recherchés par les artistes peintres, qui aimait les acheter pour les broyer en poudre et les utiliser mélangés à des huiles cicatives ou à des alcools pour en faire un colorant brun. Alors pour vous situer cette couleur,
le chorégraphe israélien est terrorisé.
Alors pour vous situer cette couleur, c'est comparable à du caramel, grosso modo. Donc c'est une sorte de glacis transparent avec un brun
très utilisé à l'époque, hein.
Et assez appétissant. C'est horrible de dire ça, mais bon, plutôt appétissant. Et donc ce petit malin a commencé à vendre ses cœurs aux artistes peintres. Et mon héros, donc qui commence sa carrière comme apprenti embaumeur après quelques magouilles dans les rues de Paris, donc il est placé comme apprenti embaumeur, découvre donc les gestes qui consistent à prendre soin des morts, à les aimer. Son maître lui apprend à les porter dans les bras comme une femme évanouie. Mais il découvre aussi qu'un commerce est beaucoup plus lucratif que celui du soin des morts, c'est le trafic d'organes, donc la fameuse mumie ou momie. Et on en retrouve une trace d'ailleurs dans la série Angélique Marquise des Anges. Geoffrey de Peyrac envoyait quelqu'un rechercher de la mumie et toutes les péripéties qui arrivaient à cette pauvre fille, enfin cette pauvre beauté, étaient à cause de cette fiole de mumie. Donc c'est quand même connu depuis longtemps, sauf qu'on n'en parle pas, puisque ce pigment, on le retrouve sur des peintures qui sont exposées dans nos musées nationaux.
Qui sont exposées, vous citez les musées, on peut aller au Louvre, au musée de Pontoise, à l'église Saint-Sulpice à Paris, c'est-à-dire donc il y a des tableaux dans lesquels on peut retrouver donc les pigments faits à partir des cœurs de rois de France.
Ah ben c'est, ils sont même pas faits à partir, c'est totalement de la poudre de cœur de roi de France broyé qui a servi à faire le brun de ces tableaux. Donc effectivement, dans mon livre, je cite les peintres, je cite certaines peintures, je laisse au lecteur le soin de faire sa petite enquête, c'est quand même plus rigolo après avoir fini le livre.
Bon, j'ai envie d'aller à l'église Saint-Sulpice dès demain, j'ai pas foutu les pieds depuis 10 ans.
Bon, alors si vous voulez aussi, vous pouvez aller au Louvre, dans l'aile Sully, 2e étage, salle 58. Voilà.
Vous vous êtes rendu, vous avez fait le parcours, vous?
Non.
Cette histoire est quand même hallucinante.
Non, mais
Jean-Jacques Benex.
Je voudrais dire que c'est assez grave, cette histoire de momie, de cœur. Ça peut sembler rébarbatif, On est quand même dans une sorte d'alchimie un peu mystérieuse et noire. Mais alors, là où est la surprise, c'est que c'est un livre hilarant.
Très,
c'est-à-dire
très
que je me suis retrouvé...
Les dialogues, par exemple.
À hurler de rire.
Très bien écrit.
Moi
très,
aussi.
Pas du tout comme le récit. Le récit
non,
est plutôt 18e.
Absolument.
Assez sophistiqué.
Oui,
mais
oui.
Alors, les dialogues, notamment les dialogues de la mère...
La mère...
Qui dit pute borgne toutes les deux minutes. Mais génial.
Est une sorte d'anthologie de la grossièreté, de l'énormité. C'est une mégère, absolument.
Qui pour tenir son rôle? Charlotte de Turckheim?
Non, il faut réfléchir. Non, moi, j'ai une idée, mais je peux pas la dire.
Ah, mais vous avez mis une option pour faire le film?
Non, j'ai pas mis une option, mais je pense que ça fera un film absolument extraordinaire. Mais on est en France.
Ah oui, oh là, 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 quand la phrase, généralement, il n'y a même pas de besoin de complément. Voilà. On est en France.
Voilà. Donc ça ne se fera pas.
Il y a des cinéastes formidables en Israël, des gens qui ont un culot extraordinaire.
Mais il y en a aussi en France.
C'est pas les cinéastes.
Ouais,
le problème.
C'est tous les producteurs,
c'est tout
les télévisions.
Reste, tout le reste.
Juste une question. C'est vrai aussi cette histoire du cadavre de Saint-Louis, de la côte offerte à sa mère Anne d'Autriche?
Oui.
On lui offre la côte de son fils. Mais elle l'aime pas trop parce qu'il est trop petit, donc on lui en offre une plus grosse.
Bah, une côte juste l'os, hein, entendons-nous.
Ouais,
il n'y avait, avait pas la viande autour, c'est pas comme une côte de bœuf. Mais Saint-Louis est mort aux portes de Tunis. Et pour pouvoir le ramener à Paris, bien entendu, on n'avait pas la possibilité de l'embaumer. Donc on l'a fait bouillir dans une grosse marmite. Et, et une fois que les eaux ont été nettoyées...
Excusez-moi, j'adore.
Ouais, moi aussi, ça, mais vraiment, j'ai passé mon temps à rire avec ça.
Pendant 10 ans.
Oui,
pendant 10 ans.
Oui, 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 oui. Bah, mon plaisir, effectivement, c'était une certaine grossièreté ou trivialité dans les dialogues et le classique très littéraire dans le corps de texte.
Ouais. Un mot sur la famille. Victor Renard vient d'une famille très spéciale. Donc, son père, qu'il ne l'aimait pas vraiment, est mort éventré, on l'a dit, parce qu'il jouait de la flûte serpent. Ça arrive. La mère Pacline est une folle de méchanceté. Il est aussi question d'un frère jumeau étouffé à la naissance par le cordon ombilical de Victor. Donc ça veut dire que dès sa naissance, il y a un crime, en fait, un crime de naissance de Victor.
Oui.
Moi, je me suis demandé, mais quelle est votre famille? Chez vous, ça va bien?
Alors,
Isabelle Duquesnoy, votre père, votre mère, c'était quoi?
Je vais vous faire une confidence et vous allez voir que tout s'explique. Mes parents étaient des artistes contrariés. Mon père avait un travail très, très sérieux, mais jouait remarquablement du piano. Et maman... Et ma mère était chef de service de psychiatrie d'un grand hôpital parisien.
Voilà.
Et j'ai donc fait tous mes devoirs de scolarité dans l'hôpital psychiatrique. Donc ces malades, à l'époque on ne disait pas des patients, on disait des malades. Les malades de ma mère m'ont vu grandir et je les ai vus vieillir. Et nous avons partagé beaucoup de moments ensemble. Alors peut-être que ceci explique cela.
Est-ce que ça explique aussi le fait que vous viviez avec un perroquet qui vous regarde travailler, si c'est bien vrai?
C'est complètement vrai, Jean-Jacques peut en témoigner. Il s'appelle Socrate. Et nous en avons même eu plusieurs. Mon mari en avait un très gros que je ne pouvais quasiment pas approcher et qui est décédé l'année dernière à 37 ans.
Mais pourquoi vous ne pouviez pas approcher ce perroquet?
Et ben parce qu'il
était amoureux de votre mari?
Et puis lui aussi, c'était vraiment sa grosse mémère. Ah oui, elle est morte à 37 ans. Et l'année dernière, et donc moi, il me reste le petit qui agaçait la grosse en tournant autour comme un moustique et qui se retrouve tout seul et qui est donc en permanence perché sur mon écran d'ordinateur ou sur mon épaule. Je lui lis mes dialogues à haute voix parce que j'ai besoin de les lire pour en retrouver le sel. Oui, oui, Jean-Jacques peut en témoigner, vraiment. Et Socrate me répond parfois... alors, soit il répète ce que je dis, soit il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Ou alors, quand il trouve ça vraiment excellent, et je suis assez d'accord avec lui, il me répond « Ouais, 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 ouais ». Et donc, là, je sais que je peux mettre un point final.
Mais il est en liberté, hein, dans la maison.
Oui, il est en liberté.
Ah, vous me rassurez.
Pas de cage.
Donc, on bouffe et il y a un avion qui passe, et dans l'autre sens...
Ouais.
Il vient piquer dans votre assiette. Enfin,
il adore les spaghettis au
tomate. Hein. C'est un personnage.
C'est lui qui a mis le point final au bout de ses 10 ans de travail. Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter.
Non, j'ai la chance d'avoir une éditrice et une conseillère aussi qui me l'ont arraché des mains en me disant « Il est vraiment parfait. Ton roman est merveilleux. Maintenant, arrête-toi. »
Dernière question, Valérie, vous vouliez?
Non, je voulais savoir si vous avez embaumé le perroquet
le
mort.
Le perroquet, la grosse mémère de votre mari.
Ah, j'ai déjà fait empailler un chat.
On va s'arrêter là. L'embaumeur ou l'odieuse confession d'Isabelle Duquesnoy ce soir, apparue aux éditions de La Martinière. Bien sûr, vous restez avec nous tous les trois et Lyle Cogan aussi, puisque tout de suite, c'est l'instant V de Valérie.
Rendez-vous.
Alors, c'est la classe internationale ce soir dans la personne de Sandra Nkake. Élégante à l'image de son troisième album qui sort demain. En plus, dans une robe rouge laissée tomber. Elle est vivace, belle, positive. Ses yeux sont grand ouverts sur ce qui se passe autour d'elle, que ce soit dans son quartier ou dans le monde. Dans Tangerine Moon Wishes, des vœux sur la lune rousse. Il est question d'introspection. Dans ce monde de fast-food où on veut tout et tout de suite, ralentir et prendre recul, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça donne un disque qui inonde l'auditeur comme des allers-retours de vagues sur une plage, tantôt puissante, tantôt douce. Elle chante deux morceaux justement de Tangerine Moon Wishes ce soir, en commençant par Change, la magnifique Sandra Nkake sur France Inter et sur Facebook Live.
Stories told, but we don't know how to work it out. Hold on to the storm, fight until you soar. Build upon a dream you made so long ago. We all want a brand new day. We all want to find a way to make it happier for you.
Aïe, aïe, aïe. Super, vraiment super. Sandra Nkake,
il y en a pour tout le monde. Il y en a pour le chorégraphe, il y en a pour le réalisateur. C'est vrai qu'elle est actrice aussi. J'ai lu qu'à Bellevaux, pas son genre.
C'est un petit air de spaghetti western qui devient un peu prog rock, c'est génial. Alors, derrière Sandra Nkake, il y a à la guitare et au chœur Tatiana Paris. À la basse et au cœur aussi, Kenny Ruby. À la batterie, Mathieu Penaud. Et puis, son fidèle complice au flûte et au cœur,
c'est un showman aussi. Hein.
Dru.
Ouais, un showman ouais, mais aussi. Tous.
Heureusement, on a, j'aime bien la radio, mais heureusement, on a l'image aussi. Alors, c'est un album introspectif. Vous dites qu'il fallait ralentir, vous poser, mais, et prendre recul, mais de quoi? Sandra,
Prendre le recul parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on est dans une vie, dans une société, dans un système ultra libéral à la course à la consommation, à tout vite tout le temps, et que souvent on oublie de prendre le temps de se rappeler, de se souvenir pourquoi on fait les choses, et que nous on avait envie de, en musique, d'expliquer que la manière dont on fait les choses c'est au moins aussi important que pourquoi on le fait. Et voilà, j'avais envie en chanson d'exprimer à chacun que, quelle que soit sa spécificité, sa bancalité, je sais pas comment on dit, elle est importante. Que l'on soit timide, que l'on soit fougueux, qu'on a chacune notre place dans la société, c'est pas toujours facile. Il faut se battre fort, mais on a choisi de se battre en douceur, de prendre le temps, d'enregistrer tous ensemble dans une même pièce,
oui,
comme
c'est
celle-ci.
Les mêmes musiciens que ce soit
organique, que ce soit vivant, qu'il y ait pas de rereux comme on dit, qu'il y a pas de clic, qu'il y a pas d'instrument digital là-dedans, il y a que de la transpiration, de l'amour, de la vibration, et que je crois qu'on est un peu à l'image de la société en fait dans laquelle on vit, dont on parle pas forcément, mais en tout cas, elle existe, on est là. On est tous différents, mais en fait, il y a plus de choses qui nous relient que de choses qui nous séparent. Et pour moi, c'est à ça que ça sert, la musique. C'est un moyen de toucher les gens. C'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen de... Voilà, j'ai envie de dire qu'on est des troubadours et que notre place, elle est là. Donc parfois, comme le barde, il faut nous dire de nous taire.
Et bien alors, mais tout de suite, on va se remettre à changer.
on est trop contents.
Deuxième titre.
On va écouter un deuxième titre qui s'appelle Mon cœur. Donc Sandra Nkake et ses musiciens sur France Inter et bien sûr, toujours sur Facebook Live pour voir le magnifique robe rouge de Sandra.
Je vais vers toi.
Super.
Super.
Sandra Nkake et ses musiciens sur France Inter, l'album sort demain, donc c'est super qu'elle passe le réveillon de la sortie avec nous sur France Inter. Ça s'appelle Tangerine Moon Wishes, et il sort sur Jazz Village et Pias. Elle serait en concert demain soir à Laval, le 27 septembre à Lille, le 14 novembre au Café de la Danse à Paris et beaucoup d'autres dates si vous voulez vous renseigner. Prise de son Léo Pringer, Clément Vuillet et Sacha Trope et à la vidéo Benoît Massir.
Juste encore une programmation bien sûr de Marion Guilbeault. Juste encore peut-être une ou deux questions Sandra Nkake. Oui. Il y a une chanson qui m'a particulièrement troublée, c'est Hope. Une question ah oui. qui m'a fait penser bien sûr à la situation des migrants. Je sais oui. que vous avez le projet d'un film sur les réfugiés. C'est quoi ? C'est un documentaire, un film de fiction ?
Alors, je sais pas encore quelle forme ça va avoir, mais il se trouve que j'habite dans le nord de Paris et que régulièrement je vois des personnes qui pourraient être moi, qui par le hasard d'une carte d'identité se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai vu ce film magnifique qui s'appelle Hope. On a beaucoup pleuré parce qu'on se sent totalement impuissant face à la connerie des hommes. Et
vous menez des actions, vous habitez en Seine-Saint-Denis, hein, c'est ça?
Ah oui, c'est ça.
Vous menez des actions?
Non, on essaye d'aider au mieux les associations, au mieux les personnes qui nous entourent. Là, en l'occurrence, ma petite cartouche est d'être artiste et d'essayer de mettre un petit peu de poésie là-dedans, de mettre un peu de baume au cœur aux personnes, enfin pour les personnes qui souffrent. Et c'est vrai que l'espoir, je veux pas le lâcher. Je veux croire qu'on est quand même capable de beauté, de bonté. Mais voilà, il faut se battre encore une fois.
Donc quand même le projet d'un film.
Mais... Ah ben voilà, c'est en écriture, mais bon.
On l'espère.
Ça. Merci à vous, Sandra Nkake.
Merci.
Merci
à vous.
Rendez-vous.
Ok, Adi, je vais être très honnête avec toi. La pièce parle de la coexistence, oui, chorégraphiquement parlant. Et c'est très important que toute la thème d'identité soit très visible.
Le nouveau rendez-vous.
Oui, moi, je suis dans le rôle du juif.
Sur France Inter.
Et toi ?
Le mot ne sera pas prononcé. Pour autant, il a été prononcé avant. C'est le mot arabe. C'est sur cet extrait qu'on va ouvrir ce plateau chorégraphique avec vous, Hillel Kogan. We Love Arabs, c'est le titre que vous avez donné à ce spectacle qui tourne partout dans le monde et notamment en France. Ça va être une tournée jusqu'en juin 2018. We Love Arab, un spectacle chorégraphique avec pas mal de danse, un peu.
Oui, c'est une chorégraphie, c'est une pièce de danse.
Exactement, mais beaucoup de textes aussi. C'est l'histoire d'un chorégraphe et danseur juif israélien, vous en tout cas, le personnage s'appelle comme vous, Hillel Kogan, qui entreprend de créer un spectacle sur l'identité, le territoire, le mur. Et pour cela, dans le processus de création, il comprend qu'une autre présence est nécessaire, l'autre, l'arabe. C'est alors qu'arrive Adi, votre danseur, qui ne correspond pas vraiment à ce que vous attendez d'un arabe. Il s'appelle Adi et pas Mohamed. Est-ce qu'il est même musulman ? La question sera posée. Pas sûr, et comme rien ne laisse vraiment penser qu'il est arabe selon l'idée que vous vous faites des arabes, il faut que chacun porte sur soi un signe distinctif. C'est alors, et c'est au départ, que vous lui demandez de dessiner sur votre corps, au niveau du cœur, une étoile de David. Et là, vous notez quelque chose qui m'a troublé. Vous lui dites « Ah, tu commences par dessiner un triangle, la pointe en bas. » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Hillel Kogan ?
Ça veut dire rien. C'est juste ridicule, une remarque ridicule du chorégraphe. Parce que... Est-ce qu'on apprend à dessiner un triangle une étoile de David d'une manière ou d'autre? Non, mais c'est juste une forme symbolique, poétique, je sais pas, métaphorique, pour dire que nous sommes différents et que c'est étrange que vous dessinez le triangle du bas d'abord.
Moi, j'ai pensé la même chose quand il l'a fait. Peut-être vous aussi.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai remarqué tout de suite.
Oui. Faire dessiner à un danseur arabe une étoile de David sur le t-shirt au niveau du cœur, ça passe toujours aussi facilement que ce soir ? Quelquefois, quand même, on entend des petites crispations dans le public.
Oui, comme Israélien, c'est très facile parce que nous avons très l'habitude de l'autodérision et de rire de le politically incorrect. On rit beaucoup de l'Holocauste en Israël aussi. de conflits, de choses lourdes, de choses qui sont pas risibles.
Il se tourne vers Isabelle Ducanois.
Oui, parce que j'ai appris ce mot aujourd'hui avec vous. Risible. Merci pour
je vous en prie.
Est-ce qu'il y a...
Mais les Israéliens, je veux dire, je veux noter que les Israéliens ont le droit de rire de tout, mais si un autre rit de l'Holocauste, c'est un peu suspecté pour comme antisémite.
Vous êtes danseur, chorégraphe, dramaturge israélien. C'est précisé systématiquement dans les papiers. Est-ce que ça vous irrite cette précision que l'on dise chorégraphe israélien? Parce que c'est une définition qui répond aussi à ce qui est demandé sur la carte d'identité. En Israël, sur une carte d'identité, il doit être inscrit que vous êtes ou bien juif, ou arabe, ou chrétien. Est-ce que cette précision, c'est quelque chose qui vous gêne, en fait, Hillel Cohen?
Ce que me gêne, c'est les distinctions entre israéliens minoritaires ou majoritaires, d'une couleur, d'autres couleurs, d'une ethnicité ou d'autre. Il y a une séparation, je pense que l'idée d'Israël est loin de l'esprit, de la culture, le moral est loin de la vie quotidienne. Et des artistes et des personnes comme Adi Boutrous, qui est le danseur arabe israélien, qui est face à moi, et apparemment il a les mêmes droits civils que moi, mais c'est toujours lui, par exemple, lui est une autre danseuse. C'est le seul danseur arabe israélien qui participe dans la scène de la danse contemporaine ou de la danse. Et c'est une population de 20%. Je ne parle pas des Palestiniens des territoires occupés. Je parle des Arabes israéliens. Et je me demande, oui, pourquoi ça? Cette pièce aussi rapproche cette question.
Vous avez vécu en Israël, c'est ce que j'ai appris au tout début de l'émission, avant qu'elle ne commence.
Pas vécu. J'ai fait de nombreux voyages.
Jacques Benex.
Des gens que j'aimais beaucoup et que je continue à aimer. Et c'est un pays qui m'intrigue énormément. Voilà, ça fait partie de ma culture. Et...
Vous avez appris l'hébreu? Parce que tout à l'heure, vous avez changé.
Non, j'étais tenté. Quand on va dans un pays et qu'on aime des gens, on a envie d'apprendre. Et puis, c'est trop difficile.
Retour sur la pièce. Toute la pièce va jouer sur les notions d'identité, de territoire, de mur, derrière lequel le juif et l'arabe sont égaux, puisque chacun est derrière un mur. Et le chorégraphe va pousser chaque fois un peu plus loin les métaphores, jusqu'à apporter sur scène un accessoire, un objet qui le raconte, le hummus.
Avant d'être en plat, c'est un symbole d'identité israélienne. Être israélien, c'est hummus, oui. Tu demandes à n'importe qui dans le monde aujourd'hui qu'est-ce que c'est le plat national d'Israël, qu'est-ce qu'il te dit?
Hummus,
bien sûr, c'est pas une question. Mais d'abord, il y a de la guerre des symboles. La scène est un champ de bataille. Le cercle du hummus est un cercle vicieux, sanglant, où chacun de nous veut avoir le hummus dans ses mains. Et le hummus va passer d'un main à l'autre, dans le mouvement rond, et fluide, et liquide. Voilà, donne-moi le hummus, ça dit. Et prends le hummus dans tes bras. Je supplie pour le hummus. Je supplie. Donne-moi le hummus. Fluide, liquide. Ok, let's go.
Ce délire autour du hummus, ça vous permet de dire quoi? Parce que c'est à ce moment-là que votre personnage parle de ses origines, et on sent bien que c'est autobiographique, ou alors je me trompe, des parents et des grands-parents qui viennent de Russie, oui. Et que vous votez à gauche. Le hummus, ça vous permet de parler de vous personnellement dans la pièce?
Je pense que oui, il y a beaucoup de choses dans la pièce qui sont autobiographiques, mais ça parle aussi de tous les Israéliens ashkénazes, la majorité, les blancs, comme on dit en Israël. Parce que le hummus, tous nos symboles, tous nos valeurs sont... Qu'est-ce que c'est israélien? Qu'est-ce que c'est... Le hummus n'est pas israélien, mais c'est comme... Oui, c'est quelque chose qui nous avons...
Prix.
Prix. Oui.
J'ai traduit les gestes que vous faites.
Oui, prix.
Pour faire votre propre symbole. Mm-hmm,
voilà.
Et est-ce qu'il existe une danse israélienne? Parce que je peux ajouter aussi que vous travaillez avec l'emblématique chef de file de la danse israélienne, mm-hmm, qui est
Ohad Naharim.
Ohad Naharim de la Bat Sheva. Oui. Est-ce qu'il y a une danse israélienne, proprement parlée? Est-ce qu'il y a une identité de la danse israélienne dans l'énergie? Dans le rapport au sol.
Je sais pas. Je suis dans ce moment dans ma vie, je questionne tout ce thème d'identité, pas seulement comme israélien, mais qu'est-ce que c'est l'identité? C'est que nous sommes, nous font partie d'un groupe. Identité, c'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose que dit que tu appartiens à, c'est être pareil à quelqu'un, pas être différent que quelqu'un. Et alors, c'est un peu difficile de répondre à ça parce que la danse qui vient d'Israël est danse israélienne pour moi. Mais par exemple, si on regarde vers la danse folklorique israélienne, la danse nationale et folklorique est le hora. Et le hora, c'est un danse qu'on danse en cercle, mm-hmm, parce que l'État d'Israël était établi par des socialistes. Et les cercles étaient un symbole très, très important. Ils ont rejeté le tango et toutes les danses des salons, les danses bourgeoises. Et ils ont pris le hora. Mais le hora est un danse du Balkan, de la Roumanie, de Hongrois. Donc, c'est pas une danse israélienne, mais c'est aussi devenu la danse d'Israël.
Vous tournez dans les pays arabes?
Non, on n'a pas d'invitation, mais aussi parce que comme israélien, il y a beaucoup de difficultés. Oui.
Vous êtes né à Tel Aviv, vous, mm-hmm, avez fait votre service militaire?
Oui.
Dans quel cadre?
Et j'ai fait des choses dans un...
Houmous?
Non. In an office. Comme
un bureau?
J'étais secrétaire, oui, quelque chose.
Et comment vous êtes devenu danseur? Comment vous avez choisi cette voie en Israël?
Je commençais avec le théâtre. J'étais dans une école de théâtre. Et puis mes meilleurs amis étaient des danseurs. Et c'est là que j'ai... I was jealous.
Yeah. Vous étiez jaloux?
Oui, j'étais jaloux et je commençais à danser sans que personne sait. C'était un cochon. Mais après, je me suis trouvé très, très attaché à ça, au travail corporel. C'est plutôt mon chose que...
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette pièce? Est-ce qu'elle a suscité des questions, des polémiques? Est-ce qu'en Israël, elle a été particulièrement commentée?
Elle était très très bien reçue en Israël. Les Israéliens ont l'habitude, même si la majorité ne soit pas d'accord avec le message ou la façon que je montre les relations de pouvoir, de l'hiérarchie entre juifs et arabes dans la pièce. Et elle était très, très bien reçue. Et les Israéliens ont l'habitude de l'autodérision. Et puis
Tous les Israéliens ont l'habitude,
oui,
de l'autodérision?
Par exemple, si tu regardes le rating de programmes de télévision, les sondages des émissions télévisées les plus populaires, ce sont des choses très gauchistes, qui critiquent le gouvernement, qui critiquent le racisme. Mais tous les gens, oui, c'est pas la réalité dans la rue en Israël.
We Love Arab, c'est jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis ça tourne partout en France. Je donne quelques dates. Le 7 novembre à Blois, le 8 à Bourges, le 9 à Châtellerault. Je me demande comment vous allez faire chaque jour, prendre la voiture, le train. Et ça continue comme ça presque tous les jours jusqu'au 8 juin. Bonne chance à vous et bon courage, Hillel Kogan.
Merci.
Estimé comme disque.
Je la connais tous par cœur.
Une américaine. Estimé comme disque.
Je croyais que tu n'aimais pas la musique.
Seulement ce disque.
Avant de parler de la Corée dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 23h15, de la Corée du Nord, tout de suite c'est la mixtape de Vali. On finit la semaine en musique. Le meilleur de la musique à venir dans les semaines, ou peut-être même demain?
Oui, certaines demain. Et ce soir c'est du rock masculin-féminin dans ma mixtape ce soir, et ça commence avec un duo.
When I was young I liked to hear music blaring, and I wasn't caring. The new to my jams with earplugs.
But these days I inhabitate a high-pitched ring over things. So these days I plug them up.
When I'm struggling with my songs, I do the same thing too. And I crunch them up in headphones, cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels. Over everything.
Même si Courtney Barnett et Kurt Weill se préparaient un sandwich et en parlaient dans une chanson, ce serait génial. J'ai pu lire ça sur internet et je suis bien d'accord. Dans Courtney Barnett, le songwriter Kurt Weill a trouvé sa jumelle. Leur style, leur voix se chevauchent sans qu'on les différencie presque, comme dans le clip que vous avez l'occasion de voir parce que le titre est déjà sorti. Le disque s'appelle Lotta Sea Lice qui sort le 13 octobre sur Marathon Artists. Pias. Et quand on parle de Courtney Barnett, sa femme n'est jamais loin. N'énervez pas, Laurent Goumar, il fallait entendre cette partie de guitare que j'adore. Elle s'appelle Jen Clower, elle est australienne.
Ça
elle
fait rire Sandra Nkake qui m'a vu, on était
ouais,
très fébrile.
Parce qu'elle est énervée, oh, écoute la musique, c'est 45 secondes dans votre vie. En tout cas, ça me fait vachement plaisir. Donc, elle est australienne, elle fait un rock nonchalant mais puissant, un peu à l'image de sa compagne Courtney. D'ailleurs, Barnett joue avec elle sur scène. Les deux femmes ont monté un label ensemble, Milk Records, et militent pour le mariage pour tous au pays des Congolais. Son quatrième album sort demain.
Ça, c'est vraiment la formation géniale.
Oui, t'as compris que c'est l'Australie.
Ah bah oui, j'ai compris que c'est l'Australie. Oui, quand même, j'ai des notions de géographie et d'animaux.
En tout cas, Kurt Weill est aussi de la partie sur cet album. Et Jen Clower sort en concert le 23 septembre à Paris, à l'Olympique. Café, j'y serai.
Sauf si c'est en semaine, parce que vous êtes
non,
ici.
Non, c'est un samedi soir,
ah,
c'est
super,
pour ça que
parfait.
Je suis sûr que j'y serai.
Bon, moi, je sais qu'elle est là-bas, j'irai pas.
Après une reine, un roi. C'est sage cette fois-ci. En tout cas, c'est un roi voodoo. Je suis sûre, je vous connais par cœur. Donc, c'est un roi voodoo. C'est le requin londonien King Cruel, aussi connu sous le nom de Archie Marshall. Un jeune adulte qui sait plus où donner de la tête. Il multiplie des projets, des collaborations depuis presque 10 ans. Il doit avoir, je ne sais pas, 24 ans. The Ooze n'est que son deuxième album, mais il capture le pouls de la génération Dazed and Confused des années 2010. The Ooze, un suintement en anglais, dit-il, fait référence aux serres humaines, la morve et tout ce qui sort du corps humain quotidiennement, ça peut vous plaire.
c'est fait pour Isabelle Duquesnoy.
Exactement. Mais c'est surtout un disque érudit musicalement sur le voyage intérieur où tous les styles s'entrechoquent. The Who sort le 13 octobre sur XL Recordings. Last but not least, un bijou, mon titre frappadingue de la semaine. C'est un extrait de l'album à venir de compositeur italien Daniel et Lupi. Ah, il ouais. s'appelle Milano. C'est la suite de Rome qui a réuni Jack White, Norah Jones et Danger Mouse. Sur Milano, c'est le groupe new-yorkais Parky Courts qui assure derrière la chanteuse de Yeah Yeah Yeahs, Karen O. Le nouveau single s'appelle Talisa et c'est une bombe.
Talisa, I saw you on the model. Talisa, Talisa. Ha, goes those bombs. Gianni says shit.
moins.
Ah, c'est la guerre des secondes.
Mais oui, bon, voilà. C'est vrai qu'on est en retard. De toute façon, Milano sort le 27 octobre sur le label de Danger Mouse, 30th Century Records. Deux singles sont déjà disponibles.
Sandra Nkake, vous connaissiez ?
Oui, j'étais fan de cet album Rome et voilà, j'attends la suite depuis tellement longtemps que là, c'est voilà. J'ai fait ah,
c'est très bien. Ouais.
Et parmi tout ce qu'on a écouté, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Jean-Jacques
Benex. Oh, tout à l'heure, c'est vrai. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment
j'ai
super.
J'ai pour vous.
Quand j'ai vu Ténoir,
moi aussi, j'ai été envoûtée.
Wow, merci.
Véritablement.
Et Hilal Kogan
oui, bien
sûr.
J'ai rigolé.
Mais oui.
Merci.
Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Merci à tous nos invités. On va se retrouver avec ça.
Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un,
on part pour la Corée du Nord.
Oui, on part pour la Corée du Nord. Et lundi, la musique, ce sera qui?
Marietta, c'est un nouveau venu dans la pop française.
Parfait, le rendez-vous est pris pour tout de suite. Eh bien, à tout de suite.